c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Attitude, votre radio en Charente avec Alain Jeanne.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chute, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente en Charente sur mariemorin.fr.
Chute, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc à Ruffec, votre référence culturelle en Nord-Charente.
Chute, on écoute la télé avec l'Angélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glacés artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Et l'Angélis, c'est maintenant 3 boutiques à Royan, Paris et Bordeaux.
Mesdames et messieurs, bonjour.
Mesdames et messieurs, bonjour.
Bonjour à toutes et à tous. Regardez tout de suite, comme d'habitude, les prévisions météo d'Elvin Delia.
Toutes les portes de cette centrale nucléaire de Tchernobyl se sont ouvertes pour notre équipe dirigée par Françoise-Marie Morel.
Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour à ceux qui nous rejoignent, car vous le savez, TF1 rend hommage à Johnny. Avec des maillots, avec 2 étoiles. Cette spéciale, bien évidemment. J'ai une pensée pour ma femme qui était là tout à l'heure, pour ma mère qui, pendant 30 ans, n'a jamais manqué. Et je craque. Elle n'a jamais manqué un journal. Elle en garde sans doute de là-haut. Merci à tous. Dernier au revoir. Je vous souhaite un joyeux Noël, malgré les difficultés. Vivement la prochaine année. Je vous embrasse du fond du cœur. Merci. Je vous aime. Je vous oublierai jamais.
Voilà, une chose est sûre, Jean-Pierre, nous non plus. Nous t'oublierons jamais. J'ai grandi avec ce journaliste. C'est celui qui m'a donné certainement le plus envie de faire ce métier. La nouvelle de son décès a été un véritable choc la semaine dernière. Et on voulait démarrer cette émission en lui rendant cet hommage. On a eu l'occasion de le rencontrer il y a de nombreuses années maintenant, où il nous louait évidemment les bienfaits de son journal. Et c'était une rencontre assez incroyable. Juste après, je reviens avec Harry Rosemack qui va être avec nous pour lui rendre hommage avec nous dans Chute, on écoute la télé. Mais d'abord, je vous propose tout de suite de réécouter Jean-Pierre Pernaut. C'était il y a quelques années à mon micro.
Alors nous, on adore vos journaux télévisés à la fin. Quand c'est que vous allez revenir dans nos Charentes?
Bon, on y va souvent. On a des correspondants au nord et au sud. On a à Nantes Thierry Cabane, à Bordeaux Jean-Yves Gros. Chez vous, directement, pour l'instant, il n'y en a pas. Mais on essaie d'être au plus près des gens, au plus près de leurs préoccupations. On montre la vie. On a aujourd'hui 19 bureaux dans les régions. C'est moi qui ai créé ça il y a une vingtaine d'années. Avant, ça n'existait pas. TF1 était uniquement à Paris. Maintenant, on est souvent dans les régions. La plupart du temps, à 13h, c'est les 2/3 des reportages. On essaie de raconter la vie des gens telle qu'elle est. Voilà, tout simplement.
Pour vous, c'est ça le succès, justement, parce que c'est un succès colossal. Le journal 13h est indétrônable.
Oh, on dit jamais ça, parce qu'on est prudent, on travaille beaucoup, on est une équipe qui est passionnée, on est une équipe de gens passionnés par la vie dans les régions, par l'actualité, partout, et on a une partie magazine avec des sujets que les gens adorent sur les traditions, les cultures régionales. On est passionnés, moi, tant que je suis passionné, je resterai là, et on essaiera d'avoir... d'intéresser le plus de gens possible. Aujourd'hui, il y en a 7 à 8 millions et on est content.
Voilà, on continue notre hommage avec Harry Rosemack qui nous a rejoint. Bonjour Harry.
Bonjour Alain.
Merci d'être avec nous. Harry, tu as partagé pendant des années, toi aussi, les couloirs des rédactions de TF1. Toi au 20h, Jean-Pierre au 13h. Quel souvenir tu gardes de ces années à le côtoyer?
Pour moi, Jean-Pierre, c'est un hypersensible qui a eu cette faculté, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est tant célébré, tant aimé par les Français, mais qui a eu cette capacité à faire de l'info, mais à y mettre de l'émotion, alors souvent de l'émotion positive, mais aussi parfois des coups de gueule, parfois aussi de l'émotion de tristesse. C'est quelqu'un dont le visage transpirait ce qu'il ressentait, et c'est quelqu'un qui dans la vraie vie était aussi comme ça, quelqu'un de passionné qui a aimé la France et qui nous a fait aimer la France, et c'est pour ça qu'aujourd'hui la France le lui rend.
Il a vraiment fait changer la façon d'informer, notamment le midi, en allant vraiment aux régions, à la France qu'il regardait à cette heure-là aussi. Ça a été un vrai bouleversement auquel personne ne croyait vraiment.
Ouais, c'est l'un des points communs qu'il a avec beaucoup de grands qui ont marqué leur domaine, que ce soit des domaines artistiques ou des domaines différents, mais ce sont des gens qui croient en leur projet, qui croient en ce qu'ils portent et qui, en dépit des vents dominants, imposent leur marque. Et les faits montrent qu'ils ont eu raison. Jean-Pierre fait partie de ces gens-là. C'est quelqu'un qui a rendu l'info nationale moins parisienne et plus nationale. Il a su, comme je le disais, nous faire aimer la France et puis nous permettre aussi de réconcilier quelque part cette France dans sa diversité. On a parfois caricaturé Jean-Pierre, même si c'est une caricature qu'il assumait finalement, en faisant de lui un franchouillard un peu réac, mais Jean-Pierre, il avait cet amour de la France, et le terme franchouillard ne le dérangeait pas tant que ça, mais c'est quelqu'un qui a su évoluer aussi avec le temps, et qui a su donner vraiment toute sa diversité à cette France. Il est très apprécié dans les départements et territoires d'outre-mer parce que il a beaucoup fait pour faire découvrir aussi ce patrimoine-là. Je me rappelle qu'il a beaucoup travaillé à ce que les équipes de correspondants à la Martinique, à la Guadeloupe fassent des sujets, montrent la réalité de ces territoires. Et c'est vraiment quelqu'un qui a su montrer cette France diverse, cette France des territoires, cette France du patrimoine, et c'est quelque chose qu'il a fait avant beaucoup d'autres.
Merci beaucoup, Harry, d'avoir participé avec nous à cet hommage qu'on voulait vraiment rendre. Voilà, Jean-Pierre, moi j'ai grandi avec, quand j'étais enfant, quand j'étais ado, voilà, je regardais son journal avec passion. Il a su nous faire aimer l'information. Donc voilà, aujourd'hui on est dans une profonde tristesse, voilà, qui nous est quittée si tôt. Et voilà, on embrasse Nathalie évidemment et toute sa famille plongée dans le chagrin aujourd'hui, comme nous tous. Donc voilà, merci beaucoup, Harry.
Merci Alain.
Et à très vite.
Merci.
Et voilà, cette émission, en tout cas, lui, sera dédiée. Allez, pour cette heure que l'on va passer ensemble, Nadège Bosson-Diagne va nous rejoindre dans une poignée de secondes pour le film « Trois fois rien ». Nous avons l'immense honneur aujourd'hui de recevoir également Ophélia Kolb pour ce que Pauline ne vous dit pas diffuser mercredi sur France 2, Constance Labbé pour Balthazar, la saison 4, jeudi sur TF1, Jérémy Banster, Francis Huster, mais également Sylvie M. termineront l'émission avec nous pour le meurtre sur les îles du Frioul, diffusé samedi sur France 3. Et puis Mathilde Abdelkader et Axel Nadoretsky pour Je te promets seront également des nôtres.
Le rendez-vous des stars. C'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Notre invitée aujourd'hui, c'est Nadège Bosson-Diagne qui est avec nous. Bonjour Nadège, merci d'être avec nous.
Ben merci beaucoup, je suis heureux, ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Eh
ben écoute, ça fait un petit moment, mais en plus t'as plein de beaux projets pour cette année 2022, dont un qui arrive très vite, le 16 mars, avec le film de Nadège Loiseau, Trois fois rien. Il y a plein de choses, dis donc.
Écoute, je vais pas me plaindre, je touche toujours du bois et surtout je fais des choses qui me ressemblent de plus en plus au niveau de l'émotion, au niveau de mes engagements politiques aussi. Donc ça fait du bien et puis je vais vous raconter après, je fais mes trucs à moi maintenant.
Oui, c'est ça, tu vas nous parler de tes projets. On va commencer par Trois fois rien, où là tu as une petite partition franchement extraordinaire aux côtés de nos trois loustiques joués par Antoine Bertrand, comme Lévin et Philippe Rebaud, qu'on recevra d'ailleurs très prochainement dans Chut, on écoute la télé, le 14 mars d'ailleurs pour être précis, Nadège, donc ils vont te suivre dans vraiment pas très longtemps du tout. C'était franchement une aventure chouette ce film. Nous, on a vraiment eu un vrai coup de cœur au Festival de Alpes d'Huez.
Alors Nadège, qui a un prénom formidable vu qu'elle s'appelle Nadège.
C'est vrai, c'est pas faux.
Oui, on fait la même blague depuis qu'on se connaît, un peu ringarde, mais on adore. En fait, Nadège Loiseau, j'ai eu la chance de la rencontrer sur Le Petit Locataire. On se connaissait pas, j'ai passé des essais. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'à la base, c'était un rôle qu'elle avait écrit pour un homme qui devait jouer donc le collègue de Philippe Rebaud. Et puis, elle a pas trouvé d'homme à la hauteur. Pardon, le petit tacle. Non, je rigole. Et après, elle a décidé, mais pourquoi cet entraîneur, c'est pas finalement une femme? Et voilà, et Tatiana Vial, la casting, lui a parlé de moi, j'ai passé les essais, il y a eu un vrai coup de foudre, on s'est vraiment très bien entendu. Et nous sommes devenus amis dans la vie. Et puis, voilà, elle a écrit ce rôle, après, pour moi, dans Trois fois rien, et je suis hyper contente parce que, je trouve que Nadège, elle a vraiment, vraiment une patte particulière pour décrire des situations, des faits sociétaux qui sont tragiques sur le papier. Mais elle arrive toujours à prendre un angle qui permet de prendre une distance avec la réalité, la dureté de ce qui est vécu. Et elle a beaucoup d'humour et beaucoup de fantaisie. C'est une grande réalisatrice, donc je suis très contente. Et puis le casting, ils sont exceptionnels. Franchement, faut le dire que Philippe Rebaud, comme Levin et Antoine Bertrand sont incroyables. Vraiment, c'est de très grands comédiens.
On va tous les recevoir d'ailleurs avec Nadège, je le disais. Ça raconte l'histoire de trois SDF, donc deux qui se connaissent et un qui vient un peu se rapatrier aux deux autres, comme ça, un peu comme une sangsue, jusqu'au jour où ils vont gagner au loto. Et on va découvrir, parce que c'est vrai en fait, tout ce qui est décrit dans le film, toutes les difficultés qu'il y a, ne serait-ce que pour encaisser un chèque quand on est un SDF. C'est dingue.
Oui, elle est partie d'une histoire vraie en fait, Nadège, d'une personne sans domicile fixe qui avait gagné au loto. Et effectivement, quand on est en rupture sociale, quand on est en rupture administrative, eh ben pour ouvrir un compte en banque, il faut des papiers d'identité. Quand on n'a pas de papiers d'identité, comment ça se passe? Et je trouve que c'est intéressant, c'est ça raconte justement la violence finalement de notre société capitaliste, qui fait que ils ont gagné au loto, mais ils peuvent pas toucher cet argent. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui ressemble bien à voilà à la dureté de notre société. Peut-être qu'il y a plein de gens qui réfléchissent pas. Fait que bah, effectivement quand on n'a pas de papier on peut pas ouvrir un compte en banque, quand on n'a pas, comment on fait, il faut attestation de logement, pour un logement il faut, enfin voilà, il y a toutes des démarches etc, et donc c'est voilà plein de gens qui sont exclus. Et ça me fait penser d'ailleurs, j'ai un flash à la magnifique chanson de Stromae en fait, sur toutes ces petites gens en fait qui alors là c'est sur les métiers difficiles, mais là c'est des gens qui sont exclus de la société, qui sont avec nous, qu'on regarde. Je trouve que le film il raconte aussi ça sur l'individualisme dans lequel on est. Et voilà. Bon, ça, c'était mon coup de gueule.
Bon, pour être élégant, tu y joues le rôle d'une péripatéticienne, oui, au look improbable et très attachée au personnage de Philippe Rebaud. Mais alors, ce look, il est improbable, carrément.
Alors, j'adore parce que quand je dis Nadège, l'oiseau est mon ami, j'ai des doutes, en fait. Quand elle m'a parlé du personnage de Vénus, elle me dit, oui, alors tu vois, je vois un look, alors on va pas décrire pour les gens comme ça, ils auront la surprise. Mais voilà, donc elle me décrit le look, je suis là, ouais, ok. Et c'était hyper intéressant, comme c'est une coproduction canadienne, l'équipe de maquillage et coiffure, c'était des Canadiens, et donc qui ont une culture aussi nord-américaine, forcément. Et on s'est lâché dans le look, j'ai dit, bah écoute, allons-y, Nadège. Et une fois, j'ai gardé la coiffure que vous verrez dans le film pour me promener dans la rue, et j'ai eu beaucoup de succès, figurez-vous.
De toute façon, te connaissant, tu fais jamais les choses à moitié. Donc, à mon avis, t'as dû y aller à fond.
Mais c'est incroyable. Et voilà. Mais j'avoue que du coup, après, quand je voyais des femmes qui étaient coiffées comme mon personnage, j'étais là, ah, tes copines.
Carrément. Bon, il y a plein aussi de projets personnels que tu vas livrer tout au long de cette année 2022.
Ah ouais, je suis très contente. En fait, je suis passée à la réalisation. Bah, ça fait un moment que moi j'ai envie de m'exprimer, de raconter, mes récits, c'est ça, et de diriger, et pas forcément moi d'être devant la caméra. C'est pas du tout une frustration d'actrice. C'est vraiment une idée une envie de raconter le monde que moi je vois. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que voilà, c'est les drames sociaux, mais toujours avec, je pense, il faut insuffler aussi une pointe d'optimisme, hein, parce que sinon on va tous se suicider vu la violence de la société dans laquelle nous sommes. Et j'ai eu la chance de tourner d'ailleurs mes premiers courts-métrages avec s'appelle Dans mon hall. C'est Laurence Lascari, de l'autre côté du périph, sa production, qui a notamment produit L'Ascension, et là qui est en train de produire un film incroyable qui va sortir bientôt.
Donc un film qui s'appelle
La Belle Étoile, réalisé, c'est le premier long métrage de Sébastien Tullard, que moi j'ai rencontré comme assistant sur le film de Danny Boone, et avec c'est la première fois à l'écran un jeune youtubeur. Alors moi je suis une vieille personne, donc c'est vrai que je ne le connaissais pas, figurez-vous, alors que j'ai vu qu'il a 4 millions il n'a pas besoin de moi, Riyad, et c'est la première fois qu'il va être à l'écran, et c'est donc coproduit par Jamel Debbouze, il y a France Télé derrière, et je pense que, préparez-vous, ça va être un très très beau film sur une histoire vraie d'un jeune homme qui est devenu un champion de pâtisserie et qui était en rupture sociale, et c'est grâce à une famille d'accueil qu'il est venu à la pâtisserie. Donc voilà, une belle histoire de résilience comme je les aime. Et du coup voilà, donc moi j'ai réalisé ces trois courts-métrages qui se passent dans une cité en Guadeloupe. Et la particularité du concept Dans mon hall, c'est que vous allez dans une cité, vous travaillez avec les habitantes, puis vous vous enfermez pendant 2 jours pour écrire les scénarios, et puis vous faites 3 films en 2 jours et demi. Ça, c'était mes premiers films, et c'est bien parce que comme ça, ça m'a mis tout de suite voilà, une espèce de challenge, et c'est formidable. Là on est en train de terminer la post-prod, voilà, c'est formidable, et je suis en train du coup d'écrire mon prochain court qui sera voué être un long. J'ai aussi un projet de documentaire et un projet de série. Et mon premier EP, j'ai mis du temps, parce que ça fait longtemps voilà que je chante, et j'ai mis du temps, parce que c'est compliqué, la voix, en fait, c'est ce qu'il y a de plus intime. Et je pense qu'il faut vraiment être prêt à se dévoiler et se mettre à nu, pour le coup, vraiment. Donc voilà, je suis hyper contente, c'est mon mari Geoffroy Tekeyan qui a arrangé mes morceaux. Et voilà, donc c'est vrai que ça fait beaucoup de choses, je ne dors pas beaucoup, mais je suis hyper heureuse.
T'as envie de nous en faire découvrir un morceau, là, de ton EP ou pas?
Pas maintenant.
Tu reviendras.
Exactement.
Bon, ça serait prêt pour quand?
Alors, j'espère sortir un premier morceau courant de l'été. Et puis après à la rentrée, parce que je parle en rentrée scolaire comme si j'étais encore au lycée. Donc en septembre après, je pense, voilà, j'espère. Moi je fais tout toute seule hein, en autoprod, voilà, comme une grande fille. Hein.
C'est bien, on n'est jamais si bien servi que par
soi-même.
Nadège, merci d'avoir été avec nous. On te retrouve dans 3 fois rien, ça sera le 16 mars. Et puis on espère voir tes courts-métrages aussi. Tu m'enverras ça, qu'on puisse regarder ça. Et tu reviendras parler de ton EP évidemment. On parlera musique aussi avec toi, parce que voilà, je sais qu'en plus tu chantes très bien. On a eu l'occasion déjà d'en parler. Merci beaucoup.
Merci beaucoup et à très bientôt. Toujours un bonheur.
Bonjour. C'est pas pour un sondage, c'est vraiment pour vous taper de l'argent. C'est rien de grave.
La fausse. Imagine que tu gagnes le gros lot.
Où c'est que j'irais si je gagnerais, moi ?
Prendre des cours de français, j'imagine.
Alors, le numéro de joker, c'est le 10. Voilà.
224 684 euros. Félicitations. Et j'aurais besoin d'un RIB et d'une pièce d'identité des gagnants.
Voilà, 3 fois rien, ça dort donc au cinéma le 16 mars. Toute l'équipe viendra nous en reparler évidemment la semaine prochaine dans Chute, on écoute la télé. Et puis on continue évidemment notre émission dans quelques instants. On va parler de meurtres sur les îles du Frioul. On va parler du grand retour de Balthazar. On va parler également de Je te promets. Alors surtout, bougez pas, à tout de suite.
Bouge pas, Chute, on écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite. On écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Coup de cœur télé consacré à Je te promets, on continue à parler de votre série. Vous pouvez suivre tous les lundis soirs à 21h10 sur TF1. Et on va faire un peu un focus aujourd'hui sur deux des triplés. Eh bien oui, ils sont avec nous, Mathilde Abdelkader qui est avec nous. Bonjour Mathilde.
Bonjour.
Merci d'être là, qui joue Maud Ado. Et puis Axel Narodiski qui est avec nous également, qui joue Michael Ado. Bonjour Axel.
Et bonjour.
Merci d'être avec nous tous les deux. Alors si on vous a pas beaucoup vu tous les deux pour le coup en saison 1, ça y est, en saison 2 c'est vraiment voilà l'explosion de vos personnages, puisque là on voit beaucoup plus la période adolescente de Maud et Michael. Comment vous êtes arrivés déjà tous les deux sur ce projet de Je te promets, Mathilde?
Eh ben moi c'était une époque où je venais juste de débuter en tant qu'actrice, j'avais juste fait un court-métrage et j'avais pas d'agent, rien du tout, je trouvais mes castings toute seule. Du coup, j'ai trouvé le casting de Je te promets sur Facebook et j'ai candidaté comme je candidatais à d'autres castings où on me répondait pas forcément, enfin je m'attendais pas du tout. D'ailleurs dans le casting c'est toujours un peu flou, on sait jamais pour quel projet on candidate, j'avais pas du tout la sensation de candidater pour un truc énorme. Et puis on m'a rappelé, j'ai eu cette chance là et puis voilà, les essais sont hyper bien passés. On a fait un callback, donc un deuxième tour où on s'est rencontré avec Axel et Dembo et où on a eu un bon feeling rapidement, donc je pense que ça a joué. Et du coup voilà, comment je suis arrivée sur l'aventure.
Axel, alors toi on t'a vu dans Fugueuse justement à la rentrée aussi sur TF1, comment t'es arrivé sur Je te promets l'année dernière?
J'ai fait Fugueuse après Je te promets. Moi j'avais un agent déjà, ça faisait déjà pas mal de temps que je faisais plein de castings et tout ça. J'avais fait une petite vingtaine de courts-métrages. J'avais pas vraiment eu de rôle aussi important que celui-là. C'est un peu mon premier rôle un peu sympa. Mais ouais, ça faisait déjà un moment que j'avais commencé. Oui, du coup c'était un casting parmi tant d'autres qui a bien marché pour le coup. Donc ouais, c'est cool.
Alors, il y a une particularité quand même qui peut créer peut-être une difficulté ou qui peut faire peur à un comédien, c'est d'incarner le même rôle qu'un autre comédien moins âgé. Est-ce que ça c'est compliqué? Est-ce que ça fait peur ou pas, Mathilde?
Moi je trouve que ça fait pas tant peur que surtout ça aide, parce que sur la saison 1 j'avais accès au rush de Marie-Lou Berry, je pouvais observer ce qu'elle faisait et en fait ce qu'elle faisait elle le faisait tellement bien, c'était tellement instructif de regarder les rushs et de la voir tourner, que ça ouvre juste la voie, c'est comme si on avait juste à la suivre, et que je pense que les profondeurs de personnages et les nuances on arrive à les tirer en s'inspirant de ce que font nos personnages adultes, et parce qu'ils jouent tellement bien qu'on a, ouais, c'est pas la peur de devoir faire comme eux, c'est au contraire, quand on les regarde, et ben on a juste à les suivre, quoi, et
à s'inscrire dans la lignée, quoi.
Ouais, c'est ça, exactement.
Toi Axel?
Ben moi je trouve ça très intéressant, hein, déjà que Je trouve que j'ai toujours l'impression de partager un peu le personnage avec le réalisateur, de toute façon. Mais c'est vrai que du coup, là, on le partage à trois, cette fois, enfin, voire à quatre, parce qu'il y a quand même les petits aussi. Après, il n'y a pas vraiment eu de... Ce que je trouve dommage, c'est qu'on aurait pu peut-être aussi encore plus travailler. Par exemple, je sais que Mathilde a eu accès au rush de Marie-Lou. Moi, j'ai pas eu accès au rush de Guillaume. Donc, je suis très jaloux. Et je lui en veux beaucoup. Mais en tout cas, ouais, non, je pense qu'on aurait pu plus travailler justement des petites nuances comme ça que qui sont. Je sais pas comment on a réussi à avoir certaines mimiques en commun. Peut-être parce que la saison 1, du coup, nous a beaucoup aidé aussi.
C'est en saison 2, moi, je trouve... Et je pense particulièrement à Dembo. Ouais, Dembo est un acteur adulte narcisse où vraiment au niveau des mimiques c'est très très impressionnant ce qu'il a fait. Mais c'est surtout, il y a aussi des choses qui nous aident de personnes qui travaillent la continuité du maquillage ou des looks. Elle a été hyper réfléchie. Je pense particulièrement à mon personnage, celui de Maud, qui est très très maquillée en période ado. Et en fait, si vous regardez, il y a vraiment eu une réflexion de l'évolution de son maquillage et on retrouve beaucoup de clin d'œil des looks d'ado de Maud sur ses looks adultes, et ça aussi c'est des choses qui aident beaucoup.
Du coup, je pense que aussi il y a le fait que nous on soit dans le passé, le réfléchir au fait qu'on partage tous un même personnage. Je pense que la réflexion se fait plus pour les acteurs qui jouent les personnages adultes plutôt que nous. Qu'est-ce qu'on va vivre du coup dans la vie? On se dit pas forcément tiens, attends, je vais réfléchir à ce que je vais vivre dans 40 ans parce que du coup je vais agir différemment. C'est plutôt l'inverse.
Vous ne vous voyez pas sur le tournage entre vos rôles adultes et vos rôles ados? Alors quand vous tournez, vous, un peu dans votre cocon en région, et qu'après vous voyez ce montage qui est aussi entre les flashbacks où vous êtes, plus après aussi le présent, comment vous réagissez quand vous voyez ce montage?
Mais oui, en fait, c'est surtout bien fait, puis c'est surtout un peu la caractéristique de la série, je pense. C'est cette idée de passer entre plusieurs époques, sur toute une vie, sur la vie de ces triplés, et de leurs parents d'ailleurs aussi, parce qu'on remonte jusqu'en 1950 quand même. Donc oui, moi je trouve c'est vraiment ce qui est réussi pour le coup en post-production. Voilà, ils surfent entre les époques et je trouve ça vraiment réussi, oui. Effectivement.
Et toi, Mathilde, comment t'as réagi quand t'as vu pour la première fois? Parce que du coup, souvent les comédiens ils aiment pas se voir, mais là du coup ils se voient pour essayer de voir, ils se regardent pour essayer de voir un peu justement comment la narration s'effectue, quoi.
Ben tout comme Axel, moi je trouve que ils ont fait un boulot de dingue au montage et que les allers-retours avec le passé ils marchent très très bien. Et puis justement, tu parlais du fait qu'on tourne en région, c'est une région qui a pas été choisie au hasard et qui tient vraiment à cœur à la productrice, au réalisateur. Et moi je trouve que ça sent qu'ils l'aiment et qu'ils aiment la lumière d'ici, la nature d'ici. Et du coup j'adore la couleur qu'ils ont trouvée dans le passé. Et puis on a quand même beaucoup de plans de mer, enfin d'océan et tout, et qui sont beaux, quoi. Ça, c'est vraiment super chouette.
On continue à soutenir, je te promets. C'est tous les lundis à 21h10. On va découvrir deux nouveaux épisodes, en tout cas ce soir, avec vous deux, Mathilde, Axel. Merci d'avoir été avec nous. Et on retrouve donc la suite de votre série préférée ce soir sur TF1. Merci à tous les deux.
Merci beaucoup.
Merci.
Et tout de suite, la bande-annonce, on écoute.
Un jour ou l'autre, avec votre mère, on sera plus là. Avec votre sœur, vous serez seul. Ça vous paraît peut-être pas important aujourd'hui, mais ça l'est. C'est important d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter.
Vous savez, parfois, je me dis que je devrais prendre le nom de ma femme. Comme ça, moi aussi, je deviendrai un galop. Et on serait les triples galops.
Coup de cœur télé consacré mercredi à France 2 avec la mini-série Ce que Pauline ne vous dit pas, avec Ophélia Kolb qu'on va retrouver dans cette mini-série. Bonjour Ophélia, merci d'être avec nous.
Bonjour, avec plaisir.
Bah ça fait plaisir de se retrouver. Après, on va s'aimer, cette super série où vous jouiez le rôle d'une avocate aux côtés de Catherine Marshall. On vous retrouve dans cette mini-série événement qui raconte l'histoire d'une femme un peu sous choc, je dirais, limite avec un choc post-traumatique après la mort de son mari, où elle va pas voir toutes les explications. Voilà, c'est ce qu'on va découvrir évidemment. Et il va y avoir beaucoup de choses qui vont se faire. Mais qu'est-ce qui vous a plu en premier déjà quand vous avez lu le scénario, Ophélia?
Ce qui m'a plu, je dirais que c'est la révolte de ce personnage qui en même temps ne sait pas du tout se défendre et s'enfonce à chaque fois qu'elle dit un mot pour essayer d'avancer. C'est sa détermination à... Elle reste sur ce qu'elle s'est dit, quoi. Elle dit qu'elle ne dira pas de mal de son mari, donc elle dit pas de mal de son mari jusqu'au bout. Elle défend sa famille, ses enfants. C'est cette détermination-là qui m'a beaucoup plu en premier.
Il faut savoir à la base que c'est un couple qui est séparé, donc voilà, il y a des disputes, il y a voilà des confrontations quand même dans ce couple. Voilà, c'est lors d'une visite qu'elle... alors on va pas tout savoir évidemment tout de suite, mais voilà, on va voir effectivement que son mari est mort sur sa terrasse. Grâce qui serait tombée du haut d'un échafaudage et elle prend le temps de rentrer chez elle. Tout se passe pas dans sa tête comme forcément ça pourrait se passer logiquement, mais elle prend le temps de rentrer chez elle, elle appelle le SAMU une fois arrivée chez elle et ça va poser beaucoup de questions sur ce qui s'est réellement passé, ce qu'on va découvrir au fil de ces quatre épisodes.
Oui, et puis quand on est face à un choc comme celui-ci, notre raison est complètement déstabilisée. On n'agit pas comme on devrait agir si on avait sa conscience quand on perd ses moyens. Et donc elle pense en premier à ses enfants. C'est pour ça qu'elle appelle le SAMU plus tard, qu'elle prend le temps de rentrer chez elle. Elle pense à ses enfants d'abord, quoi. Et après le reste vient. Et je pense que c'est complètement juste de la manière dont elle agit, parce que dans la vie, quand il nous arrive des choses, vraiment, on fait n'importe quoi parfois.
Oui,
c'est
oui.
Complètement irraisonné, la manière dont on a agi.
Et des fois, on n'a pas d'explication, d'ailleurs, à la façon dont on a pu réagir à quelque chose, oui.
Oui, on se dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Et même elle dit, quand elle est confrontée avec avec ce qui était ce qui vient lui rendre visite, pourquoi vous avez fait ça? Et là, je ne sais pas, ah si, je sais. Enfin, tout se bouscule dans sa tête, et c'est vraiment le capouille total. Ça m'a beaucoup plu de jouer ça.
Il y a un très beau casting plus, Ophélia, autour. Hein. Il y a Sylvie Testu qui joue le rôle d'enquêtrice, Pierre Arditi qui joue votre beau-père, Grace Seri, enfin vraiment du beau monde autour de vous.
Ah oui, il y a Kevin Azaïs, Georges Assialé, Guillaume Marquet, enfin vraiment, je suis très très bien entourée. Ça, c'était un bonheur de jouer avec ces personnes. Hélène Alexandrévi, c'est ma belle-mère aussi. Enfin vraiment, c'était des acteurs formidables et en fait, avec eux, c'était un bonheur de jouer, de découvrir. Et puis, Pierre Herbici, c'est l'impression qu'il m'accompagne depuis l'enfance dans les films que je regarde. Donc là, de jouer face à lui, c'était vraiment extraordinaire.
Il y a un souvenir qui revient là du tournage, quelque chose qui a pu se passer devant ou derrière la caméra, peut-être un souvenir particulier?
Oh, j'ai pas d'anecdote particulière, mais en tout cas, tout le tournage s'est passé avec Rodolphe, le réalisateur. On était comme si on parlait la même langue, et c'était très agréable parce qu'on allait dans la même direction. On voyait le personnage de Pauline exactement pareil. Donc, parfois, même si tu préfères ça ou ça pour une manière de jouer ou un accessoire ou n'importe quoi, un regard, peut-être n'importe quoi. Et à chaque fois, ma réponse était celle à laquelle il s'attendait. Il y avait toujours quelque chose où on était sur la même voie. On prenait le même train ensemble, la même avion, le même bateau. On faisait le voyage ensemble. C'était quelque chose de très, très doux avec lui et de très simple. Parce qu'on était, sans se le dire, on était complètement d'accord, en fait, sur... on voyait le personnage de Pauline pareil. Et jouer, évidemment, avec en face de Grace Seri, c'était une actrice incroyable. Il y a toutes les scènes chez le juge, faites avec elle. C'était extraordinaire parce qu'elle a une sensibilité à fleur de peau. Elle donne énormément. Et donc, on a presque juste à écouter ce qu'elle nous donne et à jouer en retour. Et puis, il y a Grégoire Osterman. Alors, Grégoire Osterman, c'est un acteur qui joue dans beaucoup de films. Et je me suis toujours dit, un jour, je jouerai avec lui. Et puis, hop, c'est arrivé.
Et là, c'est fait.
C'est formidable, ça. Et oui.
Bon, en tout cas, Ophélia, c'est pendant 2 semaines. Hein, on va découvrir les 2 premiers épisodes mercredi. Il y aura mercredi prochain, le 16 mars, bien les 2 suivants. Est-ce que vous avez des projets aussi dans lesquels on va vous voir en 2022 qui sont tournés et qui vont être diffusés bientôt aussi dans les mois qui viennent?
Alors, j'ai joué dans Le Touron, réalisé par Agnoni avec José Garcia, qui va sortir normalement là, en 2022. Il y a aussi la série de la saison 2 de la série 18h30, parce que c'est une série pour Arte. En fait, on s'est rendu en séquence avec Pauline Etienne et Nicolas Grandhomme, et donc là, il y a la saison 2 qui va sortir, qui est la série Mania d'ailleurs.
Ouais.
Et il y a une série 6x52 pour France, qui s'appelait La Montagne Fleurira, réalisée par Éléonore Cochet, avec aussi un casting incroyable. Il y a Philippe Torreton, Hélène de Fougerolles, Julien Boisselier, Constance Dolé, on est très très nombreux sur le film Michel Jonas que j'ai rencontré, c'est un bonheur aussi de jouer avec lui. Et là, en ce moment, je vais commencer deux séries, une pour Netflix et une pour France 2 qui sortiront donc en 2023.
Ouais, ça va être l'occasion de se retrouver bientôt alors du coup.
Eh oui, avec grand plaisir.
Bon, merci beaucoup Ophélia d'avoir passé ces quelques minutes en tout cas avec nous. Ce que Pauline ne vous dit pas, c'est donc mercredi à 21h10 sur France 2 juste après Un si grand soleil. Et merci en tout cas et à très vite.
À très bientôt, merci beaucoup.
Et tout de suite la bande annonce.
Tu vas faire quoi, Pauline? C'est toi qui te débarrais, c'est toi qui m'abandonnes. Je ne te dois rien.
Je vais le tuer, ce mec. Je vais le tuer, je vais le tuer.
Mon mari est mort.
Ma petite Pauline.
Il y a quelque chose qui me chiffonne. Pourquoi vous n'avez pas appelé les secours tout de suite?
Pourquoi t'as pas appelé plus tôt? Hein? À quoi t'as joué?
C'est un accident.
Réponds!
T'y es pour rien, c'est tout.
Je t'ai vu, c'est toi qui l'as tué, papa.
Si c'est elle qui a tué son mari, et ça en a tout l'air, vous avez envie de la laisser longtemps seule avec ses enfants? Elle est incohérente, impulsive. Honnêtement, je suis pas sûre qu'elle soit très équilibrée.
Notre coup de cœur télé cette semaine est consacré à Balthazar qui fait son grand retour pour une 4e saison inédite avec un renouveau. Allez, on rebat les cartes puisqu'Hélène de Fougerolles a quitté la série à la fin de la saison 3. Eh bien, nous allons voir l'arrivée de Camille Coste sous les traits de notre amie Constance Labbé, qui est notre invitée. Bonjour ma chère Constance.
Bonjour, merci de me recevoir.
Ça nous fait toujours plaisir, tu sais, de t'avoir. Et franchement, quel bonheur là de te voir, voilà, sur une série pour le coup au long cours. Et là, Camille Coste qui débarque évidemment aux côtés de Balthazar, de Thomas Sisley. Là, c'est une belle aventure pour toi.
Ah ouais, c'est une super belle aventure. Je suis très heureuse d'être là. J'espère que ça vous plaira. J'espère qu'il y aura autant d'engouement que pour les trois premières saisons qui étaient géniales.
T'avais regardé ou pas les trois premières saisons?
Ouais, j'avais regardé pas tous les épisodes, mais j'avais regardé. J'ai beaucoup regardé quand j'ai su que je passais le casting. C'est une série que j'aimais bien parce que c'est une série que je trouve riche. On n'a pas souvent l'habitude de voir des polars avec autant d'humour. Et je trouve que c'est amener de la dérision dans des enquêtes qui sont quand même très glauques. Là, surtout cette saison, on va très loin. Je trouve que c'est chouette.
Quand t'as su que t'arrivais dans cette aventure, donc là, bah, avec Thomas Sisley, vous êtes appelé, vous en avez discuté, voilà, et t'as un peu voilà accompagné dans ce début, dans cette série.
Ouais, alors j'ai d'ailleurs passé mon casting avec lui, puisqu'il me donnait la réplique avec en présence du réalisateur et de la créatrice de la série. Donc on s'est rencontrés à cette occasion, et puis ensuite quand j'ai su que j'étais confirmée, on s'est téléphoné, mais on a vraiment vraiment appris à se découvrir en tournant, puisqu'en fait c'est allé très vite. J'ai été confirmée et puis on a tourné seulement quelques semaines plus tard. Et bah écoute, j'avais beaucoup de pression, j'étais stressée. C'est toujours délicat d'arriver, de faire une reprise. Enfin, c'est pas une reprise de rôle d'ailleurs, mais en tout cas, j'étais le seul élément nouveau par rapport aux trois premières saisons. Mais j'ai eu beaucoup de chance parce que déjà, le personnage est très différent. C'est pas le même personnage que celui interprété par Hélène de Fougerolles, donc il y avait pas de comparaison possible. En termes d'écriture, on n'a pas le même rapport avec Balthazar, puisqu'il y a pas de séduction, il va pas y avoir de séduction entre nous, on va plutôt avoir un rapport
couteau tiré.
Ouais. Bah en tout cas au début un peu se renifler, puis ensuite on va devenir vraiment potes, ça serait même un rapport presque fraternel. En écriture, ce personnage de Camille Coste est très différent, et puis l'accueil que m'ont réservé comme Philippe Ayanig et puis surtout Thomas, ils m'ont vraiment accueilli avec beaucoup beaucoup de bienveillance, beaucoup de gentillesse, alors que je sais qu'ils aimaient beaucoup Hélène et que franchement je l'ai pas ils ont pas fait de comparaison, donc c'était très agréable.
Comment tu nous la définis toi, Camille Coste?
Alors Camille, elle est décidée, elle est indépendante, elle est casse-cou. Elle est très sportive, elle a un grand sens de la justice et des règles. Ça, c'est un point de frittage avec Thomas, parce que bon, quand il déborde, ça me saoule, faut que je le recadre. Et puis elle a un côté un peu plus sombre, elle fuit des traumatismes qu'elle a eu, elle fuit ses peurs en refusant toute attache. C'est-à-dire qu'elle veut pas s'attacher ni aux hommes, ni à des amis, ni à des lieux, et donc elle est en perpétuelle fuite. Mais là, elle va peut-être arriver à développer des relations amicales avec ses collègues.
Elle arrive dans quel contexte au début?
Un contexte carrément galère, parce que elle prend la tête du commissariat. Hélène est en partie en Polynésie. Il y avait un rapport très fort entre Hélène et Balthazar de séduction. Donc Balthazar, il est encore un peu traumatisé par son départ.
Ce départ, oui.
Son fidèle compagnon Delgado était aussi très attaché à elle, donc il faut qu'il m'accepte. Et puis voilà, je reprends un commissariat, je connais pas les gens, et il y a des enquêtes qui sont très très fortes, donc il va falloir que je mène des enquêtes qui sont hyper galères, et ça ne va faire qu'empirer au fur et à mesure des épisodes, parce que là ça va très loin, très très loin.
Bon, on va découvrir évidemment en fil rouge un peu, on va dire, ton arrivée dans cette nouvelle saison où tu t'installes évidemment dans Balthazar. Moi, je vous conseille aussi, parce que c'est sorti en VOD et DVD, ouais. Joyeuse retraite.
Ah oui, on a tourné.
Alors là, tu m'as fait mais mourir de rire.
Ouais. Et ben alors, tu m'as servi, parce que j'ai eu la chance cette année de tourner, entre deux épisodes de Balthazar, de tourner Joyeuse retraite 2.
Ah génial, ah oui, c'est la suite est arrivée vite alors.
Ouais, la suite est arrivée vite, on l'a tournée au Portugal avec Thierry Lhermitte, Michel Larocque et Nicolas Martinez, et moi, on est un peu tous les quatre. On part en road trip au Portugal avec les enfants. Ça va être la galère énorme. Moi, je vais faire bourde sur bourde.
Toujours aussi insupportable.
Toujours aussi quiche, toujours aussi insupportable.
Balthazar, je rappelle, c'est jeudi sur TF1 à partir de 21h05. On suivra les deux premiers épisodes avec toi pour cette nouvelle aventure. À bientôt.
À bientôt, merci beaucoup.
Ça y est, je me souviens. Vous avez dit que vous alliez me rappeler, mais jamais rappelé.
Écoutez, Balthazar, c'était il y a mille ans.
Vous avez perdu mon téléphone. Il y a une explication, forcément. C'est pas trop perturbant d'avoir eu le numéro de téléphone d'un héros pendant des années comme ça, sans jamais s'en servir. Puisque là, ça y est, c'est officiel, on va commencer à travailler ensemble. Je te propose qu'on élucide un mystère. Pourquoi tu m'avais rappelé ?
Et dans un instant, notre spécial meurtre sur les îles du Frioul, Jérémy Benster, Francis Huster et Sylvie M seront nos invités. Alors à tout de suite dans Chut, on écoute la télé.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite. La télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
On va parler du téléfilm Meurtre sur les îles du Frioul. Ça sera donc samedi sur France 3, nouveau téléfilm de la collection Meurtra. Et aujourd'hui, on a de la chance, on a la réalisatrice qui est avec nous, Sylvie M. Bonjour Sylvie.
Merci déjà de m'accueillir.
Merci. Merci à vous d'être venu et pas toute seule en plus, parce que nous faites un beau cadeau aujourd'hui, puisqu'on a la chance d'avoir Jérémy Benster et Francis Huster qui sont nos invités. Bonjour à tous les deux.
Salut Alain.
Bonjour Alain.
Merci d'être là. Alors Jérémy, on se connaît très très bien évidemment tous les deux. Francis, on a eu l'occasion de savoir à Luchon. Alors évidemment, tous les fans vous connaissent maintenant aussi pour le rôle d'Auguste Armand, qui a marqué les esprits dans Ici tout commence. Mais là, c'est dans une toute autre aventure qu'on vous retrouve dans cette collection où le principe est de réunir toujours un peu un duo, un binôme. Et là, un binôme père-fils qui va faire causer, hein, parce que là, voilà, ça va être à couteau tiré, en tout cas, ce binôme qui va démarrer très très fort avec la découverte macabre pendant une représentation d'une pièce de Monte Cristo. Voilà, ça démarre un peu comme ça sur les îles du Frioul. Et Sylvie, vraiment, la première question, je me dis, comment on fait pour arriver à captiver pendant 90 minutes sur une minuscule portion de terre comme ça, comment on fait pour installer toute une équipe technique de tournage?
Ça a été en termes de production assez compliqué, mais pour captiver, je crois que ce qui est important, c'est de vraiment suivre la relation du duo, de voir humainement ce qui se passe. Et ça, je crois que c'est captivant quand on sent que c'est du relationnel, quoi, qu'est-ce qui se passe entre ce père et ce fils.
Ça démarre effectivement mal, on voit qu'ils s'entendent pas du tout bien, hein, dès le début, c'est pas un secret, et voilà, on va voir que leur relation n'est pas du tout simple. Qu'est-ce qui vous a séduit, tous les deux, Francis et Jérémy, justement, dans le scénario, dans vos rôles, Francis?
Je crois que la série Meurtre A est d'un tel succès depuis des années que les scénaristes, qui sont deux, qui sont un duo, eux aussi, ont réussi un miracle. C'est une nouvelle adaptation du Comte de Monte Cristo. Et ça veut dire qu'il y a une colonne vertébrale imparable, celle d'Alexandre Dumas. Ils ont eu l'idée de confronter un père et un fils qui sont totalement à l'opposé. Le père a abandonné le fils il y a des années. Le fils a refait sa vie ailleurs. Et tout d'un coup, alors que le fils est chargé de l'enquête de ce meurtre qu'on découvre, le père arrive. Et je dois dire que dès le départ, j'ai été séduit donc par le scénario qui est vraiment, on dirait un film d'Hitchcock. Et puis j'ai été séduit, et je le regrette, hein, vraiment, parce que quand on est séduit, on accepte tout. Et j'ai été séduit par ce duo, qui est le vrai duo du film entre Jérémy Benster et Sylvie M. C'est-à-dire à la fois de son côté, elle. Non, mais de son côté, elle, c'est une femme, et donc elle est extrêmement rigide. Elle sait exactement ce qu'elle veut. Et oui, oui, exigeante, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que nous, les acteurs, on savait exactement où on allait. Et contrairement à ce qu'un metteur en scène aurait fait, c'est-à-dire d'avoir une espèce de complicité entre nous trois, presque de jouer les rôles à notre place, elle nous a laissé une liberté de jeu, mais dans un espace très réduit. Comme si on était tous les deux, comme dans Monte Cristo, enfermés dans la prison de notre rôle. Et le résultat est, pour nous deux, je crois, extraordinaire, parce que Banstère est un acteur qui est, c'est comme, si tu veux, Björn Borg et McEnroe, comme Djokovic et Federer. C'est-à-dire que on n'a absolument pas le même état d'esprit dans le jeu. Lui est un acteur chaleureux, ouvert, humain. Il est beau comme un dieu. Il a un charme fou. Et il ne joue pas dessus. Il joue sur une sensibilité décorchée qui fait que tout d'un coup, et on le voit dans le film, verser sa larme et être complètement dans une émotion qu'on n'attend pas de lui. Et ça, Sylvie M l'a réussi si magnifiquement, et moi je suis exactement le contraire, c'est un peu comme Brainerd et McQueen dans Les Aides Mercenaires, c'est-à-dire que moi je suis plutôt mais d'une dureté, d'une espèce de
rigidité,
d'acuité, de sûr de lui, imparable, mystérieux, cachant des secrets. C'est un duo qui m'a moins enthousiasmé. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que les protestants ont été massacrés au château d'If. C'est-à-dire que pour nous tous, le château d'If, donc le décor même du film, puisqu'on y a tourné au château d'If, ce château, c'est le château d'Edmond Dantès. Hein, y a pas de... oh, c'est pas vrai. C'est le château sanglant de massacres de protestants qui ont été enfermés, martyrisés, torturés à vie dans ce château. Et c'est vrai, je sais pas comment Jérémy va répondre, mais ou Sylvie, c'est vrai que on sent ces âmes-là, ces fantômes-là qui sont toujours là dans cet endroit. C'est pas Monte Cristo en Edmond Dantès qu'on sent. Ces souffrances qu'il y a eu là. J'ai l'impression, moi, et je trouve que c'est ce qu'elle a très bien réussi, que ces murs-là crient.
Qu'est-ce que tu as ressenti aussi, Jérémy ?
Francis a tout à fait raison. Moi, j'ai tourné un film, comme tu le sais, en Guyane, et j'ai tourné aux Îles du Salut, au camp de la déportation. Et Francis a tout à fait raison. Quand on est dans ce type de lieux comme ça, qui ont une âme et qui ont, où on a l'impression que les murs et les crient encore, que ça transpire encore de douleur, et il a tout à fait raison. On était aussi, ça nous apportait en tant que comédien, de pouvoir tourner dans des décors naturels comme cela. Par rapport à ta question de tout à l'heure, c'est vrai que moi, quand j'ai lu le scénario, je suis très attaché à la transmission, à la filiation encore plus. Donc cette histoire où ce Victor justement allait être père et avait un problème avec cette paternité, et où son père justement revenait, ressurgissait du passé comme ça. Ce duo avec Francis, je l'ai adoré et je l'adore au présent, parce que ces deux personnages ont deux gros caractères, ça fait des étincelles, mais ils ont osé une chose. Et Sylvie nous a accompagnés merveilleusement bien là-dedans, et l'a très très bien rendu et exprimé dans le film, c'est la tendresse. Ils ont beaucoup de tendresse l'un pour l'autre. Et quand on a des personnages avec des gros caractères comme ça, avec du tempérament...
Une fierté,
des hommes de poigne qui ont aussi beaucoup de pudeur, c'est-à-dire c'est des mecs. Et réussir à faire passer cette tendresse, cette sensibilité dans ce type de duo de flics, de polar, c'est pas évident. Sylvie l'a très bien réussi, et je trouve que le film est merveilleusement bien réussi pour ça aussi. Le scénario, on le connaissait, l'intrigue, on la connaissait. Après, il fallait que le duo marche.
Quand t'as su que Francis allait jouer ton père, tu t'es dit quoi, là ?
Je me suis dit...
Pourquoi c'est pas du Seulier ?
Je me suis dit, où est André, merde ? Pourquoi ils ont pas pris André ? Bah évidemment, j'étais ravi. Quand on fait une course, Francis est le premier à prendre des métaphores de grands sportifs. Vous faites une course de Formule 1, vous avez envie de rouler en Ferrari, quoi. Ben, quand vous avez en face de vous faites le championnat du monde et que le mec est une Ferrari et que vous avez une Mercedes, vous dites, c'est génial, je vais me colter au meilleur. Et quand vous coltez au meilleur, qu'est-ce que vous faites au tennis ? Vous élevez votre niveau de jeu. Et c'est la même chose. Avec Francis, faut être au taquet, quoi. Faut être tous les jours au taquet. Le premier à 5h du matin en arrivant. Il faut vraiment optimiser son talent et donner le maximum. Donc rien que pour ça, déjà, c'était un bonheur quand je l'ai su. Et après, c'était au quotidien le matin. Alors il y avait les anecdotes un peu du matin qui étaient déjà très drôles. On va pas revenir sur André Dussolier qui a fait partie du film, hein, je vous rassure, vous le verrez au générique. Mais
on a... Si, balance.
Non, mais on a. Voilà, c'était un plaisir, et comme Francis l'a dit tout à l'heure, Sylvie nous a fait la confiance. Je pense que les week-ends que l'on a fait ensemble, tous les trois, à travailler avec les producteurs aussi sur les scénarios en amont, et donc à faire connaissance, a été salutaire et bénéfique pour que sur le plateau, en arrivant, on n'ait plus rien ou très peu de choses à se dire. Et à se laisser évoluer les uns les autres. Sylvie, tirait les ficelles avec précaution et juste ce qu'il fallait, délicatesse. Et Francis et moi, on était comme deux animaux qui allaient frotter leur cuir. Et ça, c'est exceptionnel, parce que du coup, le travail en amont était fait. Et sur le plateau, on était là juste pour incarner. On n'était plus là pour se poser des questions.
On va écouter un petit extrait. On va revenir tout de suite après Sylvie. On y revient. À tout de suite.
Bon, tu m'expliques ?
Adrien Grenat et moi, on a fait l'armée ensemble. On a été incorporés ici.
au Frioul, en 68. C'était encore une base de la Marine nationale. Il admirait Alexandre Dumas. Il rêvait de devenir écrivain. On n'oublie pas cette époque-là. Et puis, bon, la vie nous a séparés. Il est resté à Marseille, moi je suis monté à Lyon. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça?
Comment tu t'es retrouvé ici?
Il m'a demandé de venir, alors je suis venu.
D'accord. Tu débarques à Marseille comme ça pour revoir un vieux pote de l'armée que t'as pas vu depuis 50 piges.
Meurtre sur les îles du Frioul, c'est donc samedi sur France 3. Sylvie, on y revient évidemment sur ce magnifique décor.
Le décor, mais je voudrais juste rebondir sur ce que disait Francis. Il parlait de son personnage en disant que c'était quelqu'un de rigide, de raide. Et c'est vrai que c'est ce qui l'apparaît au début, mais très vite. Et j'étais pour ça, j'en ai des frissons rien qu'à y penser. Mais de voir ce comédien déployer toutes ses émotions, tout ce panel d'émotions, parfois dans des plans assez courts, on le voyait explosé de tout ce qui se passait sur ce visage et incarné avec vraiment le poids du passé qu'avait le personnage de façon admirable, quoi.
Et ça, on sent que le vernis craque au fur et à mesure quand même de la relation et du film.
Le vernis, mais aussi du coup on va beaucoup plus dans l'intensité et la profondeur du personnage. On le comprend. On comprend ce qui se passe, on comprend les enjeux avec son fils, et tous les deux dans le duo, ce que j'ai trouvé mais vraiment magnifique, c'est que ils ont laissé leurs âmes parler, mais avec une vraie profondeur et une vraie intensité. C'est-à-dire que ça ne se jouait plus à travers les mots, mais ça se jouait dans des regards, dans des gestes, des choses très très fines, très frêles presque. Et c'était vraiment comme une petite brise qui soulevait l'écume sur les vagues.
Et justement, c'est un exemple aussi parce que après avoir été justement dans Ici tout commence, dans ce rôle d'Auguste Armand, vous avez pu donner la réplique à plein de jeunes comédiens qui débutaient en plus pour la plupart. Et aujourd'hui, je suis sûr que vous avez pu les nourrir de vos conseils certainement et de votre expérience, Francis.
Je crois que les comédiens d'aujourd'hui, comme les metteurs en scène d'aujourd'hui, ont une vision de leur métier totalement différente. Et c'est d'ailleurs le talon d'Achille, dans le sens où leur travail est tellement plus proche de ce qu'ils sont eux-mêmes qu'on finit par être persuadé qu'ils sont le personnage qu'ils interprètent et qu'ils ont énormément de mal pour en sortir. C'est-à-dire que quand tout d'un coup on a aimé tel jeune acteur ou telle jeune actrice dans tel rôle, qu'on a aimé tel style de metteur en scène, les gens ont l'impression qu'on leur ment après s'ils changent totalement, alors que c'était au contraire pour nous, à notre génération, on voulait changer à chaque fois. Quel rapport entre les films que j'ai fait avec Zulawski, L'amour braque ou La femme publique et avec Le dîner de cons, ça n'a aucun rapport. Mais aujourd'hui, c'est très difficile de sortir de l'image qu'on donne. Et
en plus sur la série quotidienne.
Sur la série quotidienne. Et je là, il y a une question que moi je voudrais poser à Jérémy Banster. Qu'est-ce qu'il ressent exactement maintenant qu'il a eu le courage et la loyauté, hein, parce qu'il l'a fait avec énormément de loyauté, contrairement à d'autres, quand ils le font. Il est sorti de ces 600, de 700 épisodes qu'il a fait. Comment il se sent maintenant? Est-ce qu'il sent que le personnage l'a vraiment quitté, puis c'est fini, il n'y a plus du tout? Ou alors est-ce qu'il est enfermé?
Il est vrai, oui, Jérémy. Comment on se défait avec courage de Julien Bastide, même si c'est un personnage qui t'a nourri, pour le coup, pendant des années de cette expérience riche en rencontres, qui t'a aussi permis d'exploser auprès du grand public, et qui aujourd'hui, voilà, t'adore quelque part et vont te suivre dans d'autres projets, parce que le public est prêt à ça aussi, et à vous voir dans d'autres choses.
Tout à fait. Moi, je pense que c'est l'inverse. C'est nous qui nourrissons nos personnages. C'est d'où on vient, c'est ce qu'on en a traversé, ce qui fait que l'on nourrit nos personnages. Et en fait, aussi bien, je pense qu'on laisse une empreinte dans ce personnage avec ce que l'on est, et le personnage laisse une empreinte en nous. Moi, c'est vrai que la réflexion que le personnage de Julien Bastide, je devais arrêter de l'interpréter à un moment donné, elle s'est faite dans le temps, elle s'est pas faite du jour au lendemain, parce que j'ai choisi aussi de faire ce métier pour pouvoir interpréter des personnages différents, et pour pouvoir délivrer des messages différents, et pour pouvoir porter des histoires différentes. Et à un moment donné, en tout cas, c'est mon point de vue, et je respecte celui des autres, j'ai besoin de me mettre à nouveau en danger, j'ai besoin de me réinventer, et j'ai besoin surtout de sortir d'une zone de confort. C'est mon tempérament, c'est mon choix, c'est très personnel. Mais et là-dessus, c'était mûri. Donc j'ai eu aucun problème à interpréter d'autres personnages depuis. Évidemment, ce rôle de Victor Mariani, c'était quelque chose, c'était un cadeau du ciel. C'est comme l'a dit Francis, c'est vrai que c'est un personnage où j'ai pu donner énormément de couleurs différentes, qui marche différemment, qui organiquement est différent, qui a des réactions qui sont différentes. Donc c'était formidable à interpréter. Et après voilà, on est des acteurs, on est des comédiens, on a le droit à plusieurs grands rôles dans une carrière. Voilà, je pense que c'est bien de pas s'enfermer, de voir loin surtout. Et puis, tu le disais, je réalise aussi, j'écris, je joue. Moi, je suis l'homme de plusieurs projets. Je suis pas l'homme d'un projet. Donc, et je l'ai toujours dit, je l'ai toujours fait. Donc, c'est pas nouveau. C'était une surprise pour personne. Et c'est comme ça que je me nourris. Et puis, il y a la vie la vraie, parce que c'est la vie pure. Il y a la vie pure, mais la vie la vraie, c'est elle qui nous nourrit. On a besoin de se ressourcer. J'ai travaillé pendant 3 ans énormément. J'avais besoin de prendre le large au sens propre comme au sens figuré.
Bah, tu l'as bien pris, hein. T'as vu sur ton bateau.
Mais surtout, je l'ai fait moi personnellement. Je l'ai fait personnellement. Je suis parti longtemps en mer parce qu'il faut se nourrir de la vie. Et c'est la vie qui fait qu'on peut être fort pour interpréter à nouveau des personnages différents et porter des histoires. Il faut se ressourcer régulièrement. Quelquefois, on oublie, mais voilà.
En tout cas, on va te voir dans un rôle totalement différent samedi sur France 3, Meurtre sur les îles du Frioul. On y retrouve Jérémy Bunster, Francis Huster, aux côtés de toute une pléiade de comédiens talentueux et réalisé de main de maître par Sylvie M. Ne ratez pas ce nouveau téléfilm de cette collection qui va encore nous faire voyager, découvrir aussi des histoires régionales comme on les aime tant. Merci beaucoup Sylvie, merci Francis, merci Jérémy d'avoir été avec nous.
Merci, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci Alain et à très bientôt.
Et à très bientôt. On suit ton film, toi. Dans un an, tu reviens ou on vient te voir sur le tournage. Mais voilà, Jérémy s'apprête à réaliser son prochain film et on sera avec toi, évidemment.
Lundi prochain, dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain, dans Chute, on écoute la télé. Nous aurons le grand honneur de recevoir Thierry Lhermitte et Sofiane Chalal pour le nouveau film de Michel Larocque. Alors on danse. Toute l'équipe de 3 fois rien, Antoine Bertrand, Comme les Vins, Philippe Rebaud et Nadège Joiseau sont également nos invités. Et on parlera également du lancement de la série Face à Face avec Constance Gay et Claire Borotra, qui seront nos invités exceptionnels. Allez, n'oubliez pas, j'ai le plaisir de vous accompagner tout au long de la semaine avec La Quotidienne du lundi au vendredi à 10h07, midi 7 et 16h07 sur Attitude. Retrouvez également cette émission en podcast dès 20h ce soir sur notre site internet onécoutelatélé.com. Elle sera également rediffusée demain soir à 19h. Et pour rester connecté avec nous, plusieurs solutions, notre application pour iPhone et Android, Chute, on écoute la télé, nos pages Facebook et Instagram, bien sûr. Et je vous retrouve aussi lundi prochain dès 13h. Pour la grande hebdo de Chute, on écoute la télé. D'ici là, passez une très belle semaine à l'écoute de nos programmes sur Attitude. Et je vous dis à demain pour La Quotidienne.
Chute, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc de Barbezieux, votre référence culturelle en Sud-Charente.
Chute, on écoute la télé. Avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse, un savoir-faire artisanal et des produits nobles pour un goût authentique. Dégustez l'excellence.
Chute, on écoute la télé avec Vue d'ici. Volets battants, coulissants ou persiennes innovants, fabriqués en Charente-Maritime. Vue d'ici, le seul et unique volet en composite monobloc à isolation ultra performante et au veinage bois issu d'empreintes naturelles. Vue d'ici, le meilleur volet à tout point de vue.